VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Villon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel au Cameroun. Les élections législatives et municipales du 9 février ne résoudront aucun problème, selon Maurice Kamto, chef de file de l'opposition. Son parti boycotte le scrutin en dénonçant le désastre né de la sanglante crise dans les régions anglophones et Kiabadou.
Nous n'avons pas décidé de boycotter par posture. C'est un engagement pour changer les choses, transformer la société, a souligné le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et rival malheureux du président Paul Biya à la présidentielle en 2018. Après les États-Unis, Maurice Kamto est passé en France dans le cadre d'une tournée pour alerter la communauté internationale sur la gravité de la situation dans son pays. Véritable guerre civile, le conflit meurtrier qui oppose indépendantistes anglophones à l'armée est un vrai désastre, a-t-il déclaré. L'élection du 9 février ne résoudra aucun problème, au contraire, ça va exacerber la crise, a ajouté M. Kamto. Le statut spécial pour les régions anglophones annoncé en décembre à l'issue d'un grand dialogue national arrive trop tard, a-t-il par ailleurs dénoncé. Nous ne croyons pas que la décentralisation soit une réponse aujourd'hui. En 3 ans, les affrontements ont fait au moins 3000 morts et plus de 700 000 déplacés. L'extrême nord du Cameroun est par ailleurs régulièrement la cible d'attaque du groupe djihadiste Boko Haram.
Brazzaville a abrité jeudi une réunion de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. Les participants, dont 3 chefs d'État africains et certains acteurs de la crise en Libye, ont décidé de la mise en place d'une commission préparatoire d'un dialogue interlibyen nécessaire avant les prochaines élections. L'Algérie offre ses bons offices pour abriter ce dialogue. À Brazzaville, retrouvons le compte-rendu de notre correspondant Arsène Séverin.
La réunion de Brazzaville a ainsi adopté le principe de mise en place d'une commission préparatoire de ce forum de réconciliation. Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères.
Le comité a décidé de créer une commission préparatoire inclusive de la dite conférence. Celle-ci doit être ouverte à toutes les parties prenantes libyennes, y compris les chefs de tribu, les femmes, les jeunes et toutes les autres forces politiques et sociales, afin de promouvoir une solution durable au conflit. En outre, le comité a adopté une feuille de route fixant les principales étapes de ce processus. Le comité a pris note de l'offre de l'Algérie d'abriter le forum de réconciliation nationale, tout en rappelant la décision prise précédemment par la conférence des chefs d'État d'organiser ce forum à Addis Abeba.
Le président mauritanien Mohamed Houd El Ghazouani et le djiboutien Ismaïl Omar Guelleh ont pris part, aux côtés de Denis Sassou Nguesso, à cette réunion de haut niveau qui a regroupé le premier ministre libyen, les représentants du général Haftar, le président du parlement libyen ainsi que quelques chefs de tribu. Pour Denis Sassou Nguesso, l'hôte du sommet, on ne peut plus espérer régler la crise libyenne sans compter avec la voix de l'Afrique.
Nous pensons que face à la situation en Libye, et les dirigeants africains au sommet, ils seront au niveau de l'événement. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pensons que l'Afrique saura prendre ses responsabilités.
Sur place, en Libye, les Nations Unies notent la persistance des combats dus au réarmement des divers protagonistes. Hassam Salam, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye.
Toutes ces nouvelles ne sont pas bonnes parce qu'elles indiquent que le conflit libyen est devenu un aimant pour l'ingérence extérieure de combattants non libyens et de l'envoi de nouveaux équipements militaires. Je me suis adressé une bonne quinzaine de fois à un conseil de sécurité, y compris cet après-midi même depuis Brazzaville.
L'Allemagne, qui a abrité le dernier sommet sur la Libye, s'est montrée disposée à accompagner les efforts des Africains. Klaus-Peter Schnick est l'ambassadeur de l'Allemagne à Brazzaville.
Bon, l'Allemagne à Berlin a déjà dit, une fois que ce forum sera un peu plus concret, l'Allemagne est prête d'assister au financement logistique, personnel. Il faut voir ce que l'Union africaine va nous demander. Même si notre ministre des Affaires étrangères a dû renoncer à venir à la dernière minute, bien sûr, c'est un sujet qui nous reste au cœur et la chancelière allemande va rester dans le dossier et continuer ses travaux.
Par ailleurs, dans la capitale congolaise, plusieurs opposants appellent également à l'implication personnelle du chef de l'État pour la tenue d'un dialogue inclusif avant la tenue du scrutin présidentiel de 2021. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Une vingtaine de personnes ont été massacrées jeudi dans de nouvelles tueries attribuées au groupe armé Force démocratique alliée ADF dans le territoire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les massacres à l'arme blanche de jeudi se sont déroulés pendant la journée, contrairement aux précédents qui ont eu lieu dans le silence de la nuit, comme dans la nuit de mardi à mercredi, dans cette même zone de la cité d'Ocha, chef-lieu du territoire de Béni dans le Nord Kivu, où au moins 36 civils ont été tués à la machette par des ADF après plus de 3 semaines d'accalmie. Washington a appelé jeudi les Européens à aider la France au Sahel au moment où le Pentagone cherche à réduire sa présence militaire en Afrique et se concentrer davantage sur la réponse aux menaces posées par la Russie et la Chine. Les Européens doivent relever le défi et en faire plus au Sahel pour aider la France, a déclaré le chef du commandement militaire américain en Afrique, AFRICOM, le général Stephen Townsend, interrogé sur les projets du Pentagone par des élus du Congrès. D'autant que les violences terroristes au Sahel ne cessaient de s'aggraver, le général américain qui témoignait devant la commission des forces armées du Sénat a prévenu qu'un ajustement des forces américaines dans la région devrait être synchronisé avec un renfort du soutien européen.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a décrété hier que l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine et qui s'est étendu à plusieurs régions du monde constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Jacques Aristide.
Pour le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles. Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine, dit-il. Si l'essentiel des contaminations ont été détectées en Chine continentale, 18 autres pays sont touchés, avec plus de 80 cas confirmés au total. Bien que ces chiffres en dehors de la Chine soient relativement faibles, ajoute le patron de l'OMS, la planète doit agir ensemble pour limiter la propagation. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en Allemagne, au Japon, au Vietnam, aux États-Unis et en France. L'agence onusienne indique néanmoins qu'il n'y a pas lieu de limiter les voyages, les échanges commerciaux avec la Chine, voire les mouvements de population. De telles restrictions, d'après l'OMS, peuvent être inefficaces, perturber la distribution de l'aide et avoir des effets négatifs sur l'économie des pays touchés. Après les États-Unis et le Japon, d'autres pays planifient d'évacuer leurs ressortissants, tandis que la Russie a indiqué qu'elle fermerait sa frontière avec la Chine aujourd'hui.
Le Royaume-Uni devient aujourd'hui le premier pays à quitter l'Union européenne, mettant fin à un mariage houleux de 47 ans. La concrétisation du Brexit est une victoire pour le Premier ministre Boris Johnson, qui a réussi là où la précédente locataire de Downing Street, Theresa May, s'était cassé les dents, enchaînant les déconvenues au Parlement. Après avoir renégocié à l'automne le texte avec Bruxelles, l'ex-maire de Londres est parvenu à le faire adopter fin janvier, fort d'une solide majorité parlementaire, avant sa ratification au Parlement européen lors d'une séance chargée en émotions pour les eurodéputés britanniques sur le départ. Le Sénat des États-Unis, où se tient le procès en destitution de Donald Trump, devrait se prononcer aujourd'hui sur l'opportunité de convoquer des témoins. Les procureurs démocrates ont condamné la convocation devant le Sénat de plusieurs conseillers de Donald Trump, dont John Bolton, à qui la Maison-Blanche avait intimé de ne pas participer à l'enquête de la Chambre basse du Congrès. Pour eux, ces témoins sont susceptibles de répondre aux questions sur les motivations du président. Sans eux, le procès ne sera pas équitable, répète-t-il. La défense, elle, juge que ses conseillers disposent de secrets d'État qui ne peuvent être divulgués publiquement. Leur convocation paralyserait la Chambre haute du Congrès pendant des semaines, a-t-elle également fait valoir. Le vote est prévu donc en début d'après-midi aujourd'hui. Le bilan de l'attaque iranienne contre une base abritant des militaires américains en Irak début janvier est monté à 64 blessés selon un nouveau bilan du Pentagone. Après l'attaque, le président américain Donald Trump avait affirmé qu'aucun Américain n'avait été blessé. Interrogé la semaine dernière sur le bilan revu à la hausse, 50 blessés mercredi de ses frappes, le président américain qui cherche à éviter toute escalade militaire avec l'Iran en avait de nouveau minimisé l'ampleur. Ses opposants démocrates l'avaient alors accusé d'avoir menti et manqué de respect envers les soldats blessés. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez pour une nouvelle session d'information Henri Francisque à tout à l'heure. Merci pour votre fidélité et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.